parce que si c'est pour faire mourir les gens à petit feu en prison, c'était pas la peine de tous ces combats et de tous ces efforts pour supprimer la peine de mort.
La philosophie ici en France, c'est la punition. Hein. Vous payez votre peine toute votre vie. Moi, ça fait 8 ans que je suis dehors, je paye encore, hein, je vous le dis tout de suite. Hein.
On fait des robots ou alors carrément, comme vous êtes tout à l'heure, ou des fauves. Et après les fauves, et ben on les fabrique, et après il faut gérer ça à l'extérieur. Alors, comment fait la société après avec ces fauves qu'elle a créé ?
Mais vous êtes en train de fabriquer des véritables bombes. Parce que le régime actuel, l'échelle des peines, devient tellement démesurée que vous allez coucher sur 100 personnes, vous allez en coucher 90 par terre. Cela, d'accord, ils n'auront plus de réaction. Ce seront des légumes, vous aurez gagné. Mais les 10 autres, vous allez en faire quoi?
Donc le système gère les problèmes sociaux par la répression. Si aujourd'hui tu bouges une oreille, tu te feras chasser.
Le 2 avril, chez Lucio, au temps des cerises, à Paris, s'est tenue une réunion d'information et de discussion sur la situation actuelle, juridique et carcérale. Les thèmes de la discussion portaient sur l'allongement des peines, la politique d'absence d'aménagement de peine, la construction de nouvelles prisons, type Réau, Annelin, etc.
Bonsoir, je vais me présenter d'abord, je m'appelle Olivier Cueto, je fais partie du collectif qui s'occupe d'une émission de radio parisienne qui s'appelle L'Envolée, hebdomadaire, tous les vendredis sur fréquence Paris Pluriel, de 19h à 20h30, et aussi d'un journal trimestriel, donc qui s'appelle aussi L'Envolée, qui est diffusé dans des librairies, par abonnement, et puis dans des lieux précis où on arrive à le laisser. Enfin, c'est une distribution qui reste mi-confidentielle, on tire à 2500 exemplaires, et c'est donc pas assez. Je voudrais commencer par dire que la particularité de ce journal, c'est qu'un de ses principaux objectifs, c'est de transmettre la voix des prisonnières et des prisonniers, c'est-à-dire ceux qui en sont en général privés, au travers de témoignages, de récits, mais de prisonnières et de prisonniers qui sont en lutte. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens qui sont à l'intérieur et qui se battent, même des petits combats, hein, il n'y a pas de petits combats de toute façon, puissent être connus à l'extérieur. Il y a eu cet été une série de mouvements à l'intérieur des prisons, Bourg-en-Bresse, Châteaudun, Blois, etc. Et le point commun de ces mouvements, c'était des mouvements de révolte, de contestation contre l'absence de politique d'aménagement des peines. C'est-à-dire que personne d'entre eux ne pouvait voir, ne serait-ce même qu'un conseiller d'insertion de probation ou encore moins un JAP, et donc espérer un aménagement de peine comme une permission ou une libération conditionnelle. Cet hiver, vous l'avez certainement plus entendu, il y a eu d'autres mouvements de ce type, dont Moulins, Les Baumettes, Argentan, et puis d'autres là qui ont été extrêmement médiatisés, dans la nouvelle prison forteresse qui vient d'ouvrir au printemps dernier, qui est la prison de Condé-sur-Sarthe, qui est prévue pour enfermer les prisonniers qui ont ramassé des très longues peines, et plus précisément aussi les prisonniers qui posent problème à l'administration pénitentiaire et au ministère de la Justice. Cette prison venant d'ouvrir, il y a eu le ressenti des questionnaires qui ont été distribués par l'OIP, Banque Publique et nous-mêmes à l'intérieur pour que les prisonniers nous expliquent un peu la façon de ce qui s'est passé, qu'on ait leur voix directement. Et ce qui ressort de là, c'est que c'est un véritable tombeau, une espèce de QHS ou forteresse, un QHS moderne, qui est réellement conçu pour laisser mourir à petit feu à l'intérieur. Et quelle que soit la forme de la révolte qui soit prise, que ce soit une prise d'otage, entre guillemets, ou un refus de remontée de promenade, comme il y a eu aussi, et ça a pris plein de formes, quelquefois tout seul, quelquefois de façon collective, c'est toujours ça qui est mis en cause. Et ça commence par l'absence de possibilité de parler avec un interlocuteur à l'intérieur de la prison. C'est-à-dire, les deux premiers lieux, c'est soit le directeur, soit le juge d'application des peines. Donc avec un refus donc, de se laisser crever comme ça, doucement. Nous, à l'extérieur, cette parole, on la reçoit via les médias traditionnels, on les reçoit comme des signes de violence, la plupart du temps violence gratuite. Bon, je ne parle même pas des échos des syndicats pénitentiaires qui en profitent pour dépeindre les prisonniers comme toujours un peu plus monstrueux. Mais on n'arrive pas à nous, à l'extérieur, en fait, à en faire quelque chose, et c'est bien ça qui ne fonctionne pas. L'envolée existe depuis maintenant 15 ans. On le sait très bien, on n'a que pratiquement zéro effet, si ce n'est de donner un peu de respiration aux gens qui sont enfermés à l'intérieur. Mais sinon, en ce qui concerne la politique de la longueur des peines et des aménagements de peine, notre effet, il est nul. C'est vrai pour à peu près toutes les associations ou organisations qui s'occupent de près ou de loin aux problèmes judiciaires et carcéraux. Et c'est bien ça qu'il faut arriver à changer pourtant à un moment donné, parce que pendant ce temps-là, le ministère de la Justice, les différents gouvernements, etc., eux fabriquent des lois, les magistrats aussi, les députés fabriquent des lois qui continuent à enfermer toujours un peu plus, de plus en plus de monde et pour de plus en plus longtemps. C'est pour ça qu'il nous semble urgent aujourd'hui qu'il y ait plus qu'un débat d'opinion, qu'un débat d'idées, même si on est contre, même il ne suffit pas d'être contre l'existence des prisons, il faut qu'on arrive d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire en se donnant des points précis, un programme précis, à peser chacun là où on est, chacun en organisant des forces précises. On ne vient pas des mêmes endroits, il y a ici des professeurs, il y a ici des gens de la presse, il y a ici des étudiants, il y a ici des avocats, il y a aussi des docteurs, des psychiatres, et chacun de ces places-là, il faut qu'on arrive à organiser, évidemment pour ceux qui le veulent, hein, et on peut penser pour ces personnes, mais à organiser une résistance, quelque chose de façon précise. D'autant plus maintenant que là, il y a une échéance devant nous, l'échéance ce n'est pas nous qui l'avons donnée, il y a, paraît-il, une réforme pénale qui s'annonce. On a vu l'annonce de la réforme pénale au-delà de ce que c'était au mois d'avril. Il y a eu un projet, et ce projet, de ce qu'on a compris, d'autres le développeront là, ce projet n'a pas réellement abordé le problème de la longueur des peines. Pour nous, il a surtout abordé celui de comment on allait faire pour maintenir sous main de justice toutes ces nouvelles personnes qu'on allait condamner à des petites peines, parce qu'il ne s'agissait pas de les laisser impunis quand même. Bon, en tout cas, pour ce qui est des longues peines, pratiquement rien. Et les courriers qu'on a eu des prisonniers, depuis, vont tous dans le même sens. Donc il faut qu'on arrive à poser différents points comme ça, et on a des petites pierres d'achoppement dont on peut se saisir. Il y a des choses, il y a par exemple les périodes de sûreté qui sont en place depuis 1980, depuis que la peine de mort a été soi-disant abolie, qui sont en place, sur lesquelles il faut pouvoir jouer. Il y a des nouvelles données dans l'aménagement des peines, comme des articles, évidemment qu'on ignore quasiment tous, mais qui sont des articles qui empêchent complètement la sortie, ou alors qui la rendent quasiment impossible, à moins d'y passer des années et des années, certains l'ont fait, heureusement pour eux, mais là, une perspective de sortie. Cet article-là, c'est une création comme ça, au travers d'une loi, de ce qui s'appelle des commissions pluridisciplinaires de mesures de sûreté. On ne sait pas ce que c'est, nous maintenant on sait ce que c'est, mais ça, il faut, c'est aussi un point sur lequel on va en parler, on peut s'arrêter et essayer d'agir dessus. Là, je vais laisser la parole à soit à Philippe,
non.
Soit à Pierrette Poncella, pour réussir à commencer...
Faire toucher du doigt.
Ouais, à toucher du doigt
la réalité de ce qu'est véritablement ces articles. We'll be right back.
Pierrette Poncelat.
Donc l'objet, c'est de lutter, d'essayer de trouver des instruments qui permettent de réduire la longueur des peines. Première chose, pour moi, d'abord, hein, la longueur des peines en elle-même. Et la deuxième chose, c'est essayer d'arriver à contourner, si c'est possible, ça c'est le travail des avocats, je crois, en partie, mais pas seulement, tous les dispositifs qui ont été créés singulièrement ces dernières années, pour faire que les libérations soient de plus en plus difficiles, et notamment pour les longues peines. Or, pourquoi le projet de réforme ne dit rien là-dessus ? Parce que c'est la loi du nombre. La loi du nombre, c'est que la majorité des personnes qui sont en détention exécutent des petites peines. Et donc, il y a un énorme problème de surpopulation carcérale, comme on dit, mais qui touche évidemment les maisons d'arrêt.
Les longues peines.
Voilà, ça ne touche pas les longues peines. Alors, les longues peines. En France, on a connu une période idyllique, si j'ose dire, parce qu'elle n'était pas sur d'autres choses, où il n'y a plus eu de réclusion criminelle à perpétuité. C'est le premier de nos codes pénaux, le code pénal révolutionnaire de 1791. Il n'y avait plus, on avait supprimé la réclusion criminelle à perpétuité. Mais on supprime la réclusion criminelle à perpétuité, mais on maintient la peine de mort. Échec des réformateurs. Et depuis, il y a ce lien entre les deux, c'est-à-dire qu'il faut une peine, quelle qu'elle soit, qui élimine, et qui élimine plus ou moins définitivement, même si on nous dit autre chose. Il y a toujours ça, cette idée d'élimination. Quelques chiffres sur les longues peines. J'ai les chiffres, puisque c'est quand même faire sortir des personnes qui sont en longue peine qui nous intéresse. Combien il y a de personnes à un moment T, hein, c'est les statistiques que l'on a, qui exécutent des très longues peines. Quand on regarde l'évolution, c'est des chiffres de l'administration pénitentiaire, hein, tout à fait fiables, une réclusion criminelle à perpétuité, là, on ne peut pas dire qu'il y ait une augmentation. C'est stable. Si je prends 2013, c'est les derniers chiffres, c'est ceux que j'ai regardés, sur ces années-là, il n'y a pas d'augmentation, ni en chiffre absolu, ni en pourcentage.
D'un point de vue historique, il y a eu la suppression de la peine de mort. Ce qui s'est passé derrière...
Oui, je sais, on a créé 30 ans.
Les peines ont changé, et on a créé volontairement cette peine de 30 ans.
Oui, oui.
C'est pour l'opinion publique qu'elle a été créée. C'est-à-dire, on dit, voilà, on va...
Oui, je suis d'accord.
À l'époque, la perpétuité, c'était 15 ans, moins un délai d'épreuve qui était d'une année. C'est-à-dire, les gens faisaient 14 ans. C'était raisonnable encore, on va dire raisonnable entre guillemets. C'est toute une vie, 14 ans.
Oui.
Ce qui a été créé, donc, c'est les peines de sûreté.
Première peine de sûreté. Oui, mais ça, on va y venir après, si vous voulez bien.
D'accord, allez-y, allez-y.
Et puis, la réalité, aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui exécutent des peines comprises entre 20 et 30 ans. Et ça, en revanche, c'est très, très net. Je vous donne, peu importe les chiffres, hein, absolus, mais les pourcentages, qui sont parfois plus parlants. Si on prend l'ensemble des peines criminelles, en 2000, il représentait 8% des personnes exécutant une peine criminelle. Aujourd'hui, dernier chiffre, c'est le 1er janvier 2013, 24% des détenus exécutant une peine criminelle. Ensuite, si on regarde les personnes qui sortent en fin de peine, et donc là, il n'y a pas eu de libération conditionnelle, qui sortent en fin de peine, il y en a de plus en plus. Si je prends toujours 2000, 64%, qui sont sortis en 2012 cette fois-ci, 76%. Nous avons un CPIP qui a fait ses statistiques au niveau de la centrale de Saint-Martin-de-Ré. Il nous dit que 70% des demandes de libération conditionnelle sont rejetées actuellement à Saint-Martin-de-Ré. Il nous dit le découragement des personnes détenues, c'est-à-dire que, alors il a fait ses petits calculs, hein, 43% des condamnés à une réclusion criminelle à perpétuité éligibles ne les demandent plus. C'est pas nouveau, hein, ça, mais quand même, hein, les chiffres augmentent. Nadia m'avait dit, qu'est-ce qu'il en est du côté de l'Europe ? Alors l'Europe, vous savez, pour beaucoup, c'est un peu le mirage, c'est formidable. Enfin, je veux dire, le Conseil de l'Europe, la Cour européenne, c'est formidable. Attention, tout ça a aussi changé. Si l'on regarde, je prends juste deux exemples, le Conseil de l'Europe, c'est-à-dire l'Europe des droits de l'homme, hein, pas l'Union européenne. Vous savez qu'ils produisent des résolutions, des recommandations. 1976, résolution sur les détenus purgeant des peines de longue durée. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Au plus tard, après 8 à 14 ans de détention, 8 à 14 ans de détention, il doit y avoir un examen répété régulièrement pour voir s'ils sont éligibles à la libération conditionnelle. Ça, c'était 76. 2003, c'est plus du tout pareil, la recommandation de 2003. Le traitement des détenus de longue durée, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une gestion, hein, c'est tout le vocabulaire qui a changé, de ce type de détenus pour que ça se passe mieux. Pour eux, sans doute, mais aussi pour la gestion des établissements. Il n'y a rien à redire là-dessus. Hein. Aussi, on comprend que la gestion doit être meilleure. Mais on voit que ça a changé. Il n'y a plus rien sur les délais. Plus rien. Aucun délai n'est avancé. Et il est même dit que, certes, les condamnés à des réclusions criminelles à perpétuité doivent aussi bénéficier de libération conditionnelle, mais ça n'est pas une obligation. D'accord ? Donc ça, c'est le Conseil de l'Europe, les droits de l'homme. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, il y a eu une opposition entre le Conseil de l'Europe, droits de l'homme, et l'Union européenne, le marché, des trucs comme ça. Bon. L'Union européenne est devenue une énorme machine à produire des textes juridiques, et énormément en droit pénal, avec la coopération judiciaire, policière, etc., surtout judiciaire. Bon. Et donc, le Conseil de l'Europe, qui a été en opposition à un moment, c'est fini. Donc, il a viré à droite, si j'ose dire, du côté de l'Union européenne. Et on voit de plus en plus un rapprochement entre, en matière pénale, ces deux textes. Je vais vite, hein, je veux pas. J'aurais bien d'autres choses à dire sur l'un et l'autre. La Cour européenne des droits de l'homme aussi, il ne faut pas trop espérer d'elle. Mais les avocats, en revanche, peuvent encore agir sur quelques petits points, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Quelle avancée ? Elle donne un délai raisonnable au bout duquel on devra examiner la situation. 25 ans.
C'est tout à fait raisonnable, ça.
25 ans. Vous voyez, c'est vraiment raisonnable.
Moi, ça me dépasse.
C'est 25 ans. Et ces 25 ans, elle ne dit pas comment doit se passer le réexamen. Elle n'a aucune exigence. Ça peut être un droit de grâce.
Comment doivent se passer les 25 années ?
Le mieux possible.
C'est-à-dire. Les stocks, on les dépose quelque part et puis on attend.
Non, bah alors là, il y a
donc
tout.
La réalité,
non, alors
c'est ça.
Sur les conditions de détention, la Cour européenne, là, est un peu plus, quand on la saisit du moins, exigeante. Hein. Conditions humaines, pas de traitement inhumain et dégradant. Sur les conditions.
Bah, même quand le pays est condamné.
Résultat pour la France. Nous, on a ce qu'on appelle une réclusion criminelle à perpétuité réelle qui a été introduite à la suite d'un fait divers. Dans un cas très particulier, on peut être condamné à perpétuité avec une période de sûreté perpétuelle. Perpétuelle aussi. Quand on est condamné à perpétuité, elle est perpétuelle. Si on est condamné à 30 ans, c'est 30 ans. C'est la loi de 94.
94.
Mais oui, ça existe.
Relèvement de la période de sûreté.
Alors, la période de relèvement, elle, est au bout de 30 ans. Alors, en Europe, il y a quand même 9 États membres du Conseil de l'Europe, on est 47 au Conseil de l'Europe, qui n'ont pas du tout la réclusion criminelle à perpétuité dans leur législation. Donc je pense que nous, on pourrait proposer la suppression. Si la France était le 10e pays, je ne vois pas qu'on s'écroulerait. Il y a beaucoup de pays où le délai pour demander une libération conditionnelle est plus court. Et notamment, un pays qu'on donne toujours en exemple, qui est l'Allemagne. L'Allemagne, c'est 15 ans. L'Allemagne, l'Autriche, c'est 15 ans. En Finlande, après 10 ans. Au Danemark, après 12 ans. En Suède, après 18 ans. Vous voyez, donc, il y a des pays qui ne sont pas des pays qui sont ravagés par des criminels très dangereux qu'on a laissés sortir trop tôt et qui ont des délais plus brefs pour examiner. Si j'en viens aux petits dispositifs juridiques qui ont été ajoutés. Donc, pour moi, d'abord la longueur des peines en elle-même. Ensuite, ce qu'on avait évoqué, vous vous souvenez, c'est le cumul des peines. Le cumul des peines, c'est-à-dire, il y a des peines maintenant qui ne peuvent pas être confondues. Donc, dans les mouvements que vous évoquiez à Condé-sur-Sarthe, mais autres, une rébellion, on est condamné pour rébellion, il n'y a pas de confusion possible.
Évasion,
bien entendu, pas de confusion possible. En revanche, prise d'otage, il y a confusion. Alors, la seule solution, c'est le droit de grâce individuel. C'est la seule voie juridique possible. Hein. Vous disiez, ce que moi je peux pas, j'ai pas vérifié, c'est que lorsque en 75 il y avait des mouvements dans les prisons, les peines qui étaient prononcées à l'encontre des mutins étaient beaucoup plus faibles. Hein, dans l'envolée, vous notez 6 mois maximum.
Pour la destruction de la
là, qu'on est sur Sarthe, on est allé jusqu'à 8 ans, je crois. Donc, les peines prononcées, évidemment, sont, me semble-t-il, plus graves. Hein. Pour la libération conditionnelle, ce que j'ai dit depuis pas mal d'années déjà, c'est que on a créé des dispositifs qui font que la libération conditionnelle a été marginalisée. Ça a commencé avec le suivi socio-judiciaire. Le suivi socio-judiciaire est appelé peine complémentaire juridiquement, mais en fait, ça se trouve à s'appliquer quand on a fini la peine, quand on sort. Donc, quelqu'un qui a un suivi socio-judiciaire, de toute façon, même s'il n'a pas de libération conditionnelle, il sera suivi. Ensuite, on a créé la surveillance judiciaire. Alors ça, c'est un truc tout à fait pervers. C'est-à-dire qu'on a obtenu des réductions de peine pour bonne conduite quand on était en détention. Alors on se dit on sort avant, tant mieux. Ah non, non. Pendant le temps des réductions de peine, vous êtes sous surveillance judiciaire. Et là aussi, soumis à, je décris pas toutes les obligations. Et on a créé les mesures de sûreté. Donc 2008, la surveillance de sûreté qui est déjà applicable. Donc même si vous n'avez pas de libération conditionnelle, de toute façon maintenant il y a la surveillance de sûreté. Il y a un emboîtement, hein. On peut avoir suivi socio-judiciaire et surveillance de sûreté, on peut avoir surveillance judiciaire et puis ça ne va toujours pas, vous avez la surveillance de sûreté après. Il y a des conditions sur la peine qui a été prononcée, etc. Hein. Ça contribue à marginaliser la libération conditionnelle. On peut demander la suppression de la période de sûreté tout de même. Quand elle a été introduite, c'est 78. Mmh. Les débats à l'Assemblée nationale sur la période de sûreté en 78, le Parlement était tout à fait divisé dessus.
Pourquoi on a mis les périodes de sûreté?
C'était à la suite d'un fait divers.
Toujours, mais il y avait même des procureurs et des magistrats qui disaient, voilà, vous lui donnez 10 ans, il n'en fera que 3, par rapport aux grâces. Et donc, la création des peines de sûreté, enfin des périodes de sûreté, c'est pour être certain que la personne fait la moitié de la peine avant de poser la peine réelle. Hein.
Bien sûr. Après, il n'y a plus de discussion sur l'opportunité, il n'y a plus qu'une discussion sur le caractère systématique de la période de sûreté. C'est-à-dire qu'on voit quand même une évolution, c'est-à-dire plus on fait des lois qui sont restrictives et répressives, plus on s'y habitue. Et après, pour les supprimer, c'est terrible.
Ceux qui les subissent, ils ne s'y habituent pas.
Et alors, vous me parliez de OI 730-2 qui a été introduit en 2011, qui a accru le rôle d'une chose, je ne comprends pas même que ça existe, les commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté, qui ont été créées en 2005 et ensuite on a cessé d'accroître leur rôle. Bon, ces commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté ne servent à rien, mais très franchement à rien. Elles sont présidées par le président de la Chambre de l'application des peines et puis il y a les autorités, hein, disons, le représentant de la police, du barreau,
de
la gendarmerie, des victimes, etc. Bon, voilà. Et cette commission doit rendre un avis, plus ou moins motivé d'ailleurs, hein, un avis qui est transmis ensuite au tribunal d'application des peines.
C'est un avis qui est uniquement consultatif. Hein.
Consultatif, elle a 6 mois pour statuer, mais tout le monde dit qu'elle ne respecte pas les 6 mois.
Non, au départ, ils avaient 6 mois, ça a été prolongé, maintenant ils sont passés à 9 mois. Dans la pratique, c'est combien?
Ça va jusque 18 mois
entre
maintenant.
9 et 18.
Ça peut aller jusqu'à 18 mois.
Et c'est uniquement consultatif.
Il faut la supprimer. Il faut demander la suppression des commissions.
Quel est le moyen légal d'y arriver?
C'est le Parlement. Il faut demander la suppression. Bon, alors les JAP me disent non, c'est irréaliste, et là, ça ne bougera plus. Alors, ce qu'on va faire, ce que certains JAP font, il faut qu'ils le fassent, c'est-à-dire que dès qu'au bout de 6 mois, l'avis n'est pas rendu, hop, on passe outre. Ils peuvent le faire.
C'est prévu par la loi.
Hein, ils peuvent le faire.
Avec un appel systématique du parquet. C'est les instructions qu'ils avaient reçues par Mme.
Je le sais. Donc, je pense qu'il n'est pas tout à fait impossible, malheureusement c'est pas partout, d'avoir un accord avec le parquet.
Non, mais c'est pas contre vous que je dis ça. Mais c'est un constat simplement.
Mais
vous vous rendez compte du type qui attend pendant des années.
Je
au
le
dernier
sais.
Moment, il est encore dans l'incertitude.
Je le sais.
Et encore reporté.
Je sais.
Attendez, il vaut mieux les tuer. Hein,
mais je
tuer,
sais, hein. Mais c'est ce qui est arrivé avec Pierre Juste Marny. Hein, ah oui, Pierre Juste Marny, cet homme qui a passé 48 ans en détention, allant des hôpitaux psychiatriques aux maisons centrales, il était originaire de Martinique.
Et il était sur le continent.
Il a fait toute sa peine sur le continent. Il a toujours refusé d'être condamné par des métropolitains. Il estimait qu'il était en exil. Il obtient enfin d'être envoyé en Martinique. Il demande une libération conditionnelle. Et là, qu'est-ce qu'on lui dit ? Ah ben non, vous êtes obligé de retourner en métropole, au Centre National d'Observation. Qu'est-ce qui s'est fait ? Il s'est pendu. On a cet exemple. Ils envisagent du coup de créer un CNE pour les territoires d'outre-mer.
Ah bon, ça va créer des postes. On en rigole comme ça, mais je suis en train de penser à ces gens.
Mais c'est de la folie.
Oui, je sais. Le suivi socio-judiciaire, il doit être prononcé par les juridictions de jugement. Quand il ne l'est pas, on a créé une catégorie qui s'appelle le suivi socio-judiciaire encouru. Donc, la juridiction ne l'a pas prononcé, qu'à cela ne tienne. Il était encouru. Donc, sur la personne qui encourait un suivi socio-judiciaire, on a créé des mesures d'exécution des peines restrictives délibération.
C'est uniquement une question d'interprétation aussi. Hein.
Non, là, c'est la loi qui le dit.
Interprété par le magistrat. Ne serait-ce que même au niveau de la mise en examen.
Oui.
Quelqu'un va passer pour vol à main armée. À côté, on va y mettre vol à main armée, séquestration. Alors maintenant, il y a toute une palette comme ça qu'on met.
Oui,
c'est-à-dire, c'est large. Par exemple, si je prends mon cas, il y a des années, je ne me serais pas retrouvé dans ces conditions-là. Je me retrouve avec séquestration. Séquestration me fait encourir le CPMS et la CNE, etc.
Oui. Je vais m'arrêter là. J'ai donné quelques petits trucs. Je pense que c'est à Philippe de...
Non, ouais. Philippe, finalement, il n'a pas grand-chose à dire. Parce que vous m'avez désespéré en entendant ça. C'est-à-dire, on parle de textes de loi. Non, ce n'est pas vous qui êtes en cause. C'est simplement la façon de voir les textes, de les interpréter. On a l'impression qu'on parle de littérature alors qu'il s'agit d'être humain.
Je sais
que moi je suis naïf là-dessus.
Hein, avec vous, je regarde ce qu'on peut faire avec le droit, quoi. On peut pas grand-chose.
Vous vous rendez compte à quel point c'est grave. On parle de justice. Oui, mais résister, mais les types à l'intérieur, ça fait des années déjà qu'ils résistent.
Ah oui.
Et il y en a de plus en plus qui ont conscience de ce qui se passe. Attendez, quand ils voient à côté, je prends par exemple le cas de quelqu'un de bien précis, Christophe, il a écrit récemment. Il a dit, Christophe Kider, il a dit, j'ai 40 ans, c'est quelqu'un qui a été condamné d'une certaine manière, alors qu'on savait pertinemment que c'était un accident. On prend des gens, on en fait des monstres, on les représente comme des monstres. Le monstre, ça n'existe pas, Peut-être à un instant T pour chacun d'entre nous dans sa vie, mais ça n'existe pas. C'est une façon de vouloir tuer l'autre d'une autre manière. Donc là, on prend par exemple le cas de Christophe Kider. Qu'est-ce qui se passe? Il a écrit à Madame Taubira. Il a dit, voilà, moi, j'ai fait ça, j'ai mérité une peine. Le fait de prendre 20 ans, on donne un prix à une vie quelque part. J'accepte de payer 20 ans. Mais ce qu'on m'a fait derrière, le cumul de toutes ces peines, c'est inacceptable. La façon dont on le fait vivre, c'est inacceptable. Quel espoir, quelle attente, comment pouvoir se projeter? Est-ce que vous pouvez me le dire? Personne ne peut le dire. Et lui, il vit ça au quotidien. Et il attend quelque chose.
Oui.
Il a écrit à Taubira pour lui dire, regardez, c'est ce qu'il... Et il fera quelque chose, Christophe. C'est là le problème. C'est ça qu'on attend. Mais ils ne répondent pas, ou alors on répond comme monsieur, comment il s'appelle, Clément, il a répondu, au 10 de Clairvaux, il a répondu chiche. Quel grand homme, hein? Bien, hein?
Clément, parce que
Clément, celui qui a fait la réforme sur la récidive, etc.
Ça suffit l'hypocrisie, venez, coupez-nous la tête. Venez dans la cour à Clairvaux, venez avec une guillotine pour nous.
C'est horrible.
Et lui, il a répondu chiche.
Bon, en même temps, avant, il était représentant dans les. Machine à photocopier, pas tellement de rapport avec la justice. Gestion du stock, ça je l'ai lu aussi dans les statistiques du ministère. Hein. Gestion du stock.
Ah, c'est abominable. Oui. C'est le vocabulaire des démographes et des statistiques.
On parle de nous, oui, mais c'est des êtres humains, hein, mais gestion du stock.
Ouais.
On va dégraisser le stock aussi. Ouais. Mais bon, tout ça, c'est des belles paroles. Mais j'ai une position quand même à part ici. Moi, j'ai vécu ça.
El Chenaoui.
Peut-être pendant que j'étais en train de vivre ça, il y a déjà des années en arrière, hein, 75, 80, 90, 95, 2000, etc. Il y avait déjà des réunions, des colloques, des gens qui discutaient. Et qu'est-ce qu'il en est sorti? C'est très bien, vous avez une bonne pensée, mais qu'est-ce qu'il en est sorti? Il y a des gens différents qu'on a. Comme ça, dès le départ, on a décidé de tuer d'une autre manière. Hein. Comment peut-on concevoir qu'on parle de justice? Est-ce que la justice est pour tout le monde ou pas? Alors oui, c'est vrai, je suis naïf quelque part. Mais si on condamne quelqu'un au nom d'une justice, il faut que cette justice soit, je ne sais pas comment dire, c'est quelque chose de sacré, la justice. On fait, mais si. Alors, si vous, prof, vous faites la grimace quand je parle de justice, c'est un problème.
C'est un mot que j'utilise très peu. Je parle du ministère du droit.
Ah, ministère du droit et de la loi. Oui. Il y a des magistrats qui m'ont dit ça aussi. Hein. Oui, ils m'ont dit, on ne peut pas parler de justice, ne venez pas évoquer le cas de la justice. C'est grave quand même.
Non, c'est réaliste.
Ouais, bah là on est des grands naïfs. C'est pour ça qu'on est resté en prison. Parce que j'ai une autre idée des choses.
C'est pour ça qu'il faut changer le droit.
Il faut changer l'être humain.
En deux, ça, c'est tout.
Ah, voilà, bien d'accord.
Non, mais là, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire?
Je suis contre les prisons. Mais une fois que j'ai dit je suis contre la prison, que j'ai dit par écrit et n'importe où, même pas pour mes ennemis, la prison. D'accord. Mais on me dit, et quelle est ta solution? Moi, ma réponse, je n'ai pas de solution. Mais en tout cas, c'est ce qu'on propose aujourd'hui, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas la solution non plus. Toi, mon ami, que tu as fait tant d'années, ta réflexion aujourd'hui, comment on pourrait apporter quelque chose à cette inhumanité? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peu, il ne s'agit pas de faire des grands discours ou des grands... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que je vois l'intérêt... Et partout c'est pareil, les gens ils sont très très motivés et c'est tellement injuste, tellement idiot, enfermer les gens pendant des années et des années, ça mène nulle part. Quelle est ta réflexion?
Je pense d'abord et d'une que c'est bien ce que tu dis là, parce que là c'est intéressant. Je pense tout d'abord que c'est au nom, à votre nom, à vous tous, donc c'est une prise de responsabilité. Il faut se sentir concerné, c'est votre responsabilité. C'est en votre nom, bon, peut-être pas tous parce que vous êtes trop jeunes, c'est en votre nom que j'ai été condamné. C'est en votre nom que j'ai subi ça, moi. Donc vous avez une part de responsabilité également, et donc vous avez une prise d'opposition à prendre. Ou vous estimez que les gens qui vont en prison doivent y mourir, et dans ce cas-là, il ne faut pas être hypocrite. On ne parle plus de justice, de réconciliation, on ne parle plus de contrat social, on ne parle plus de rien de tout ça. On parle uniquement de vengeance. Et dans ce cas-là, il faut avoir le courage d'une société civilisée, ben il faut recouper les têtes ou trouver un autre moyen. Mais il ne faut pas laisser des gens pourrir en prison comme ça avec cette idée. Donc quand ils demandent qu'est-ce qu'on peut faire, c'est prendre position. C'est dire non, on n'est pas... Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Hein. Je n'ai jamais été d'accord avec certaines choses et j'ai toujours dit. Maintenant, ce n'est pas une histoire de courage, c'est simplement une histoire de conscience. Est-ce qu'on peut accepter que ça se passe dans le pays où on vit?
Monsieur Canetti, psychiatre, qui a accepté d'être cité lors du procès d'un prisonnier qu'il avait pris en otage pour dire qu'il comprenait son geste.
Je suis tout à fait de votre avis. La prison, pas pour mon pire ennemi. Effectivement, à chaque fois qu'on réfléchit et qu'on donne cet élément, ce qu'on nous rétorque, c'est « mais qu'est-ce que vous avez à proposer à la place ?» Et effectivement, on est tous sans voix parce qu'on n'a pas grand-chose à répondre à ça. Et sauf que votre proposition, elle est vraiment intéressante. Comment est-ce qu'on va pouvoir changer de façon de penser pour pouvoir justement contourner cette question de nous mettre dans la position de trouver la solution pour partir du préalable que ce qui se passe actuellement n'est pas acceptable? Et je suis tout à fait d'accord. Enfin, ça me paraît fondamental de partir de cette position plutôt que de dire on envisagera ça le jour où on aura trouvé une solution alternative. Je pense que c'est... Après, ça ne veut pas dire qu'en pratique, ça va donner des choses très, très concrètes. Hein, c'est-à-dire qu'au niveau de la loi, de la réforme pénale, ça va pas se concrétiser. Mais je pense qu'effectivement, dans ces groupes, puisque vous disiez qu'ils existaient déjà en 75, en 80, c'est qu'effectivement, il y a peut-être une limitation dans la façon de penser. Et je trouve qu'il est intéressant de partir de ce postulat.
La prison n'est pas faite pour punir les détenus ou les délinquants. Elle est faite pour faire peur aux gens afin qu'ils n'y aillent pas. Vous voyez, comment abolir les prisons en ne mettant pas ceux qui n'ont rien à y faire? Les routiers n'ont rien à faire dans les prisons. La plupart des petites peines n'ont rien à faire dans les prisons. Vous pouvez les punir socialement. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer parce que cette nouvelle peine de contrainte pénale qui est en train d'exister, elle ne va pas remplacer les petites peines de prison. Elle va augmenter le parc carcéral en faisant de tout contrevenant un délinquant qui sera soumis à un contrôle Alain-Pierre Brasseret, qui sera sous même justice, mais qui ne sera pas emprisonné, il sera enfermé. Donc la prison n'est pas forcément nécessaire.
Joannet, éducateur magistrat, premier avocat à la Cour de cassation, conseiller justice de Matignon et à l'Élysée, en l'occurrence, s'est porté garant pour la conditionnelle de Philippe El Shenaoui.
C'est au cours de ma deuxième visite à Poissy avec Philippe. On a parlé de cette question et de mon expérience dans toutes ces prisons que j'ai visitées. Je crois qu'il y a deux questions de principe. C'est évidemment, le prisonnier a envie d'être libre. C'est la liberté. Mais peut-être paradoxalement plus important, c'est le respect de sa dignité. Parce que plus les gens sont condamnés à des peines de longue durée, moins leur dignité est respectée. Parce qu'il y a la routine pénitentiaire, il y a les vexations, et puis on résiste à la vexation, donc il y a des survexations, et puis ça continue. Alors Philippe, on a souffert de ça. Et parce qu'il résistait, il revendiquait qu'on respecte sa dignité. Et ça, c'est extrêmement important, parce que tant que l'homme résiste sur le plan de la dignité, il n'est pas libre, mais il est libre dans sa tête. Et puis, il y a un livre remarquable, je vous conseille, c'est « Les lettres de prison » de Rosa Luxembourg, où elle explique comment elle est restée libre dans sa tête en prison, elle a quand même fait 8 ans. Donc cette question du respect de la dignité, c'est tout un programme qui peut... C'est la formation des dirigeants de la pénitentiaire, parce que ça passe par eux. Moi, dans toutes les prisons que j'ai visitées au monde, je consacrais un temps important aux surveillants pour voir quelles étaient les possibilités d'évolution. Parce que c'est quand même eux que les prisonniers scotinent tous les jours et que les prisonniers scotinent les prisonniers tous les jours. Donc le changement, il passe aussi par là. Mais sur la question de la dignité, dans les très longues durées, c'est pour moi quelque chose de capital. Et les pouvoirs des directeurs sont parfois excessifs. Alors qu'ils ont une grosse responsabilité sur ce plan-là.
Pour introduire mon propos, on parle beaucoup de la prison et le débat sur l'abolition, je pense qu'il est nécessaire, surtout entre juristes, parce qu'on est beaucoup de juristes, je crois, dans la salle. Mais j'ai l'impression qu'on reste très en dehors de la prison, là, et de l'urgence de la situation de ce que, du coup, appelait la Réunion les QHS modernes, parce que, justement, on a du mal à sortir de l'isolement dans ces situations de longue peine. Donc on peut parler de l'abolition, mais je crois qu'il faut là qu'on parle sérieusement de comment est-ce qu'on sort de cet isolement, que ça soit surtout pour justement avoir peut-être un point d'accroche sur l'opinion publique ou sur le droit, après chacun aura sa stratégie. Mais voilà, j'introduis là-dessus parce que du coup, peut-être tu pourras lancer sur le bâtonnier parce qu'il y a une tribune. Et du coup, j'avance un peu sur ma question d'avance. C'est comment est-ce que la prochaine fois, parce que ça va péter si ça continue comme ça, comment est-ce qu'on est bien plus réactif et bien plus coordonné dans des réponses, parce qu'il y a eu une tribune du coup à la réponse au bâtonnier par l'OIP et l'association Banque Publique, etc. Une tribune qui a mis un peu de temps à sortir, du coup c'est pas forcément un petit peu, du coup c'est pas, si mes souvenirs sont bons, ça devait peut-être passer dans un journal, c'est pas passé, bref, s'organiser pour que la réponse soit plus rapide, plus concrète, avant de parler de la question de l'abolition de la prison, parce que l'urgence elle est large.
Delphine Boisel.
Oui, alors je peux expliquer ce qui s'est passé avec donc la maison centrale d'Alençon suite aux incidents qu'Olivier évoquait. Les avocats du barreau d'Alençon qui ont manifesté leur mécontentement et surtout ont indiqué qu'ils ne souhaitaient plus intervenir à la maison centrale d'Alençon compte tenu de la dangerosité des personnes qui s'y trouvaient, que les incidents parlaient finalement d'eux-mêmes et que au-delà d'une difficulté d'organisation du barreau pour assister aux commissions de discipline qui se tenaient tous les jours à l'époque à la maison centrale d'Alençon, eh bien les avocats réclamait de rencontrer les personnes détenues derrière des hygiaphones, en fait, dans des parloirs vitrés. Alors, en fait, cette position du bâtonnier, enfin du barreau d'Alençon, a fait suite déjà. On avait déjà eu une petite alerte, effectivement, au mois d'octobre. Il y avait eu un article dans un journal local d'un avocat qui évoquait cette possibilité de demander des parloirs sécurisés pour les avocats. Il y a eu donc cette manifestation du barreau d'Alençon. Je dis que la réponse n'a pas été si longue que cela parce qu'elle a mis une semaine à intervenir entre la diffusion de cette tribune des avocats. On a été une quinzaine d'avocats, effectivement, sous l'égide de l'OIP et avec des gens, enfin, des avocats proches de bancs publics, de l'envolée, à réagir et à faire publier une tribune sur lemonde.fr. On a été repris également dans Ouest France pour justement contester en plus cette vision. Parce que si les avocats en plus se mettent à parler de dangerosité pour les personnes prisonnières, ça pose véritablement une difficulté, moi je trouve éthique, déontologique. On n'est pas là pour ça. Déjà que sur ce concept de dangerosité, on en a parlé tout à l'heure. Je pense que même les psychiatres sont pas à même et nous encore moins, et qu'on n'est pas là pour ça. Donc voilà, on avait fait publier cette tribune. Bon, on s'est fait un peu renvoyer aussi dans nos 22 par le bâtonnier d'Alençon qui nous a dit que. C'était pas notre prison entre guillemets, que eux la connaissaient et que simplement nous étions un certain nombre d'avocats à intervenir puisqu'on a des clients à Alençon, qu'on n'a jamais été confrontés. Et donc pour élargir sur le débat, c'est vrai que ça pose cette question de l'enfermement dans des quartiers d'isolement géants ou des QHS géants, des personnes qui sont condamnées à des très longues peines. Et de gestion finalement, parce que le problème d'Alençon, le problème de Vendin-le-Veil qui va bientôt sortir des murs, je crois qu'il n'est pas encore, on est sur 2015, qui est un établissement totalement identique, il n'y a pas d'activité, où les personnes ne se croisent pas, ou se croisent vraiment en tout petit groupe, il n'y a pas d'échange, véritablement de ce qu'on met dans cette peine de prison qui est déjà totalement on a des personnes qui se retrouvent, on parlait de Christophe tout à l'heure, on est sur 2050, on en a plein d'autres avec qui ont déjà fait 20 ans de détention, qui se retrouvent avec des fins de peine en 2030, 2040, et finalement on leur propose rien. On les a parqués dans un endroit. Si en plus les avocats se mettent à porter de tels jugements. Nous, ça nous a vraiment alertés. Alors, ta question, c'était qu'est-ce qui se passe si ça se reproduit ?
Par exemple, est-ce que du coup, quelle est la situation aujourd'hui des avocats à Alençon ? Est-ce qu'il y en a quand même qui vont ou non ?
Alors, dans ces commissions disciplinaires ? Les avocats du barreau d'Alençon ont indiqué qu'ils y étaient retournés, qu'ils n'avaient pas eu gain de cause sur ce parloir vitré, mais qu'en fait, c'était pas vraiment une vraie demande de leur part, que c'était vraiment pour lancer le débat, être entendu par la presse, être entendu par l'administration pénitentiaire, qu'en fait, c'était pas vraiment ce qu'ils voulaient. Ils y sont retournés en tous les cas. Moi, je vous dirais, j'y vais vendredi, donc je me renseignerai. Toujours est-il que les échos que j'en ai eus, c'est que ces avocats-là seraient très très mal accueillis par les personnes détenues la prochaine fois, parce qu'effectivement, ils ont très mal vécu aussi, eux, à l'intérieur, d'être lâchés par ceux qui sont normalement là aussi pour porter leur voix. Si ça devait se reproduire, est-ce qu'on pourrait réagir plus vite ? Est-ce qu'on...
Une des alternatives, entre guillemets, pour les avocats qui seraient par exemple ici, ça serait d'aller intervenir là-bas. Alors certes, il n'y aurait plus d'aide juridictionnelle puisque ce n'est pas le bon barreau, mais une intervention pour des commissions disciplinaires d'urgence, je parle, c'est-à-dire quand il y a des mesures de mise en quartier d'isolement, etc., c'est des choses qui sont envisageables pour, si vous voulez, dans un sens, couper l'herbe sous pied d'une dynamique de sur-isolement dans ces QHS. Ça, c'est un truc qui a été engagé avec quelques avocats un tout petit peu à Paris. Moi, je fais partie d'une caisse de réflexion sur les défenses collectives. Et ça a été un tout petit peu envisagé. On s'est dit que sur les commissions disciplinaires où il y avait un délai de 6 mois, là, valait mieux pas intervenir pour des questions de justice ou parce que potentiellement il y avait des vices de procédure ou de forme, bref. Mais que sur des questions d'urgence où il faut répondre dans les 3 jours pour des commissions disciplinaires, est-ce que ça c'est envisageable pour justement essayer de casser déjà l'isolement, pour montrer qu'il y a autre chose qu'une réponse de mise à l'écart dans ces QHS pour ces détenus ?
Après, c'est tout à fait envisageable à partir du moment où on est prévenu suffisamment. Enfin, c'est toute la difficulté après d'organisation pour les avocats de pouvoir se déplacer. La difficulté, ça va être la désignation de l'avocat par la personne. Enfin, donc, ça va être compliqué à mettre en place par la suite. Je crois qu'on a créé avec l'Observatoire international des prisons un réseau d'avocats. On a réussi à fédérer un certain nombre d'avocats un peu partout en France. On est en lien qui nous permettent de réagir rapidement.
Il y a eu un truc comme ça qui a été fait dans le temps, le CTJ. Ça, c'était pendant la période QHS, donc comment on générait des mouvements dans les quartiers de sécurité pour contester. Il y a des jeunes avocats de la région parisienne et puis autres qui se sont proposés, qui se sont associés. Il y avait, certains sont devenus célèbres entre-temps.
Oui, c'était un groupe clair avec plein d'autres avocats.
Ces jeunes avocats à l'époque, quand on était en grève de la faim, etc., eux nous suivaient. On partait, par exemple, on nous faisait partir de Paris, on nous envoyait à... Le petit matin, comme ça, on baluchonnait, et on se retrouvait à Évreux, à Lisieux, etc. Et ce qui était important, c'est que les avocats arrivaient de suite. Ils étaient là, et donc il y avait un contrôle de l'administration pénitentiaire, on ne pouvait pas se permettre de faire n'importe quoi.
Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire, on ne peut pas se dire, c'est une époque complètement révolue, elle est pleurée après une époque,
en disant, ah oui, mais là, c'est plein de bancs.
Donc là, à ce moment-là, on était après 68, aujourd'hui, on est après 2013. Voilà, donc ce qu'il faut c'est parvenir maintenant, sinon ça ressemble à rien. Effectivement, parvenir maintenant, j'arrive pas à croire qu'il n'y en a pas là pour ce problème précis, à qu'il y ait des petits groupes d'avocats qui soient capables d'intervenir. Et il ne faut pas non plus se leurrer, il n'y en avait pas des centaines à l'époque. Hein. C'est comme il n'y avait pas des centaines de prisonniers qui se révoltaient à l'époque non plus. Il y a eu des mouvements de mutinerie, bon ça c'est des moments précis, des groupes constitués de prisonniers, sept. Bon, voilà. Et à 7, ils ont fait un barouf.
Préavis de grève de la faim.
Ils ont fait un barouf parce qu'il y a stratégie, il y a intelligence, il y a concertation, il y a un lien avec l'extérieur, etc. Donc c'est pas le nombre forcément qu'on attend. Parce que c'est une espèce de prise de position claire, nette. Et il n'y a pas besoin, encore une fois, d'attendre qu'il y ait 50 avocats pour le faire. C'est sûr que si là dans la salle, il y a des 50 avocats, c'est un problème net, précis. Il y a des gens là-bas qui font des petits mouvements individuels, ou des, enfin, gros, petits, ou on s'en fout, petits ou gros, individuels et collectifs, qui se retrouvent à passer d'abord par des prétoires, et ensuite devant du pénal.
D'abord du tabassage.
Oui, d'abord du tabassage.
Tabassage, et puis bon, après un peu de mitard.
Et bien, comment effectivement.
Et après des peines qui s'ajoutent.
Comment on peut faire un groupe d'avocats pour court-circuiter les avocats tout désignés d'Alençon,
on a vu la réaction
du
bâtonnier.
Le projet qu'ils ont.
C'est pas la première fois, et là ce sera pas la dernière. C'est complètement con de dire sensibilisation, c'est pas ça, d'essayer de faire évoluer les choses, de faire évoluer les mentalités, parce que ça reste, même quand on parle comme ça de la prison, de la justice, etc., on est dans une volonté de faire évoluer les mentalités. On ne peut pas parler de tout au même moment. Enfin, sinon, on dit, à mon avis, pas grand-chose, ou de façon très, très superficielle. Donc cette idée-là, elle est venue de mouvements précis qu'il y a eu à l'intérieur depuis cet été. On sait qu'il y a une demande, elle est petite, mais on sait qu'il y a une demande qui vient de l'intérieur. Parce que il y a une espèce de, pour un tas de personnes qui sont enfermées, d'impasse. Et ces personnes-là, elles ne vont pas attendre que le monde ait changé pour imaginer vivre. Elles seront mortes dans les prisons avant que la première des mentalités ait changé. Il faut bien réussir, nous, à porter... ou au moins à créer des caisses de résonance suffisantes, pour faire connaître et faire réfléchir à partir des problèmes qui sont posés, à savoir, on va le redire encore une fois, la longueur des peines, la politique de non-aménagement systématique des peines, la construction de ces forteresses qui vont avec la volonté d'enfermer pour de plus en plus de temps. Est-ce que nous, encore une fois... C'est une histoire d'engagement, de volonté, de prise de position de différentes personnes, de psychiatres, de professeurs, de chacun, là où il est, là où il se trouve, et en essayant de se mêler le plus possible.
C'est des prisonniers.
Et j'ai commencé par les prisonniers, d'arriver à porter ça. Et c'est ça le changement des mentalités, c'est d'arriver à le dire. Alors ça se dise avec du droit. Oui, là où ça peut, bien sûr, utilisons-le si c'est une arme possible. Mais on sait pragmatiquement aussi que ce n'est pas une arme suffisante, qu'il faut d'autres choses, qu'il faut des mobilisations, qu'il faut que ça s'entende. Ce qui s'est passé dans les années 70, ça ne venait pas d'une autre planète. Quand un groupe d'intello a décidé de faire sortir la parole des prisons parce qu'elle ne sortait pas, et que ça a permis ensuite de générer un mouvement comme le CAP, qui a perduré, qui a été, c'est pas, encore une fois, ça ne concernait pas des milliers de prisonniers, ni des milliers d'intellos à l'extérieur, ça concernait un petit groupe. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, on s'en souvient encore, et y a des bagarres qui se sont faites autour de ça, des rapports de force qui se sont construits autour de ça. Si déjà, on arrive à l'extérieur à approcher cette force, cette conception de force-là, eh ben on aura fait un pas pratiquement et dans l'évolution des mentalités. Parce que c'est ça qui nous manque. Qu'est-ce qui nous manque d'autre? Parce qu'effectivement, c'est vrai, cette dame a raison, on peut passer d'un sujet à un autre, etc. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut bien, de temps en temps, s'arrêter à des sujets précis. C'est pour ça que là, nous, parce que ça fait des années, pour des raisons personnelles, collectives, etc., qu'on s'occupe et qu'on s'intéresse au problème de l'enfermement et du monde qui le génère. On sait très bien que c'est pas la prison, c'est pas quelque chose qui se reproduit tout seul. On sait très bien que ça vient d'un monde. On sait très bien que c'est un outil nécessaire au développement d'une société précise, bien sûr qu'on le sait. Il y a des articles dans l'Envolée qui parlent de ça, en même temps que des lettres de prisonniers. Là, pour nous, l'urgence, elle est posée par des gens à l'intérieur qui disent qu'est-ce que la société elle est capable de faire? Quel groupe d'avocats est capable de nous protéger si on prend des risques? Quel groupe d'intello est capable de porter notre voix si on a des choses à dire? Parce que nous, on reste confidentiels. Si on avait une tribune, si on avait une radio, si on avait même un journal comme Libération existait à l'époque, le problème ne se poserait pas de la même façon. Le problème, il est que c'est ça qu'il faut construire là maintenant. Je ne sais pas, c'est l'objet en tout cas de ce qu'on avance là, ce qu'on essaye de provoquer là, c'est ça. C'est pas autre chose que ça. Des réunions comme ça, il va y en avoir dans d'autres villes en France. Là où il y a d'autres radios associatives ou qui ont des émissions qui ressemblent à celles de l'Envolée. Et puis, on reprovoquera avec d'autres, avec le plus grand nombre possible, hein, toujours un peu plus, c'est toujours mieux, des avancées en pensant que ces avancées-là, elles donneront aussi confiance à ceux qui vont aller au charbon à l'intérieur, parce qu'il y en a qui vont y aller. Prenez les journaux. La dernière page, c'est effectivement la lettre de Christophe Hider à Taubira qui dit « Je ne ferai pas, voilà, j'ai fait 20 ans, au-delà de 20 ans, je ne ferai pas un jour de plus. » Alors, soit vous trouvez la solution pour me faire sortir, soit moi, je vais devenir ce que je n'ai jamais voulu être et ce que vous aurez fabriqué de moi. Voilà, c'est ça sa réponse. Lui et d'autres, hein. J'ai entendu dans un autre procès d'assises à Montauban il y a très peu de temps, quelqu'un dire la même chose, dire « je ne ferai pas la peine que vous venez de me donner, j'ai déjà fait 23 ans de prison, vous m'en remettez 20, je ne les ferai pas, j'ai 50 ans aujourd'hui, je ne les ferai pas. » Point final. Et c'est comment nous on est capable de porter cette parole-là et pour qu'elle ait un effet, pour qu'elle commence à avoir un effet. C'est pas autrement qu'on change les mentalités, hein, pour moi.
Olivier, pour changer de mentalité, il faut aussi qu'on change de discours. C'est pas qu'on dise qu'on plaide pour lui, j'ai rien contre mon plaidé. C'est pour dire, il a raison, on est d'accord avec lui.
Bah oui.
On est d'accord avec lui. C'est pas de dire soyez gentil avec lui. C'est de dire on est d'accord avec lui. Et ça, c'est un autre discours.
Ça s'appelle une prise de position. Il faut prendre position. Il y a un moment, il faut prendre position.